If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Everyone knows that it doesn't truly feel like Valentine's without the flowers. So whatever you do, don't forget the flowers. Beat the Valentine's rush and order early at 1-800-Flowers.com. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get up to 40% off gorgeous bouquets and one-of-a-kind arrangements that are guaranteed to wow. Don't put this off. Delivery dates are limited. So get up to 40% off today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 139, dans cet épisode, on va parler de se sentir coupable, de ne pas être assez productif au quotidien, peut-être un sentiment que tu connais, moi je le connais assez bien. On va parler de l'équilibre délicat entre les loisirs qui font du bien et la procrastination qu'on déguise allègrement en loisir qui fait moins du bien. On va parler de la petite spirale dans laquelle on peut tomber et dans laquelle j'ai pu tomber un peu ces derniers temps autour de tout cela. Et on va parler évidemment, parce qu'on est force de proposition par ici, on va parler de deux méthodes testées et plus ou moins approuvées par moi-même pour s'en sortir et retrouver plus de bonheur et de sens au quotidien, et non pas nécessairement plus de productivité, même si ça peut être lié, parce que bon, il y a quand même plus important au global dans la vie que de juste être productif. J'espère qu'on sera d'accord à ce propos, mais que de ne jamais être productif, c'est pas idéal non plus. Bref, on va partir là-dessus. C'est basé un peu sur ce qui m'est arrivé ces deux... Ouais, ça fait deux mois maintenant. Août, septembre, octobre. Ça fait pile deux mois. Ces deux mois qui ont suivi la fin de une période très intense dans ma vie qui a été ma préparation sportive et physique pour faire et terminer un Ironman de triathlon. J'en ai pas mal parlé sur ce podcast. Et il paraît qu'une fois qu'on a eu une préparation très intense, notamment par exemple pour une course d'endurance de longue distance, eh bien après, une fois qu'elle est plus là, qu'on a terminé, qu'on n'a plus besoin de s'entraîner tout le temps, eh bien ça laisse un peu un vide. Il paraît que ça laisse un genre de blues, une espèce de déprime post-marathon, post-Ironman, post-ultra, post-gros projet qui prenait beaucoup de place dans notre vie, et qui était intense, physiquement et ou mentalement. Je dis pas que j'y croyais pas avant, mais j'étais quand même plutôt serein et confiant sur la suite. Alors, clairement, je dirais pas que j'ai déprimé, mais il y a quand même eu des petites choses, et j'ai réfléchi, et j'ai essayé de repartir du meilleur pied. Et on va discuter de cela. Je me base, comme d'habitude, sur mes histoires, mes expériences pour ce que je raconte dans ce podcast. Le but, c'est que tu y trouves toute la valeur que tu peux appliquer pour toi, pour ta vie, en faisant les parallèles nécessaires, en gardant ce qui est bon, en rejetant ce qui ne te concerne pas. Je te laisse être le maître ou la maîtresse de ce qui s'applique pour toi. C'est parti, on se lance. On va commencer du coup par un petit retour à froid sur ce qu'il s'est passé pour moi après cet Ironman. Et donc, cette grosse échéance sportive qui est venue culminer une grosse préparation intense, c'est terminée fin août 2024, donc comme je l'ai dit, il y a deux mois. Dans les semaines, les toutes premières semaines qui ont suivi, les deux, trois premières semaines qui ont suivi, j'étais très chaud, j'étais très motivé au début pour la suite de ma vie, on dira, la reprise, la récupération d'une partie de ma vie également. Et je suis parti en vacances, tout ça, Je le raconte dans un épisode qui n'est pas encore sorti, celui dans lequel je parle justement de cette compétition qui va arriver dans un mois à peu près. Donc reste à l'affût, ce sera fin novembre. Et une fois que je suis rentré de vacances, donc que je suis arrivé à peu près en octobre, eh bien avec la météo qui allait avec, j'étais un peu moins bouillant. J'étais un peu moins bouillant, je vais pas mentir. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ma vie. Ça, je ne me fais aucun doute à ce propos. J'aime beaucoup ma vie, je ne vais pas mentir. Mais c'est clair que de ne plus avoir tout ce sport au quotidien du jour au lendemain, bah, ça m'a laissé beaucoup de place libre d'un seul coup dans mes journées. Hein. Et même si j'en ai remplacé une partie de ce temps libre par d'autres choses qui me tiennent à cœur, forcément, ça n'a pas été que du sport. Donc j'ai gardé du sport, hein. Évidemment, je n'ai pas arrêté entièrement du sport, mais j'en fais moins. J'ai alloué une partie de ce temps en plus à d'autres choses, mais il m'en restait quand même. Il m'en restait quand même et je ne savais pas trop quoi en faire en fait. Ça m'a mis dans l'embarras. J'ai dit, bah, attends Eric, qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là? Et j'ai eu un sentiment mitigé par rapport à l'utilisation de ce temps, l'utilisation subjective. J'ai eu un sentiment subjectif parce qu'évidemment, tout est matière à interprétation, et c'est bien là aussi qu'une des clés réside, j'ai l'impression, quand on a l'impression de se sentir coupable de ne pas en faire assez. Pas en faire assez, assez déjà, c'est subjectif par définition, donc voilà, on va pas entrer trop là-dedans, mais ça fait partie du problème. Et donc sur les semaines qui ont suivi, bon bah normal, hein, je me suis remis à travailler comme il faut, je me suis remis à faire pas mal de musculation, j'ai bien repris la course à pied notamment, je vois mes potes un peu plus qu'avant, ma famille également, tout va bien avec ma copine, bref, tout baigne, mais ça me laisse quand même plus de temps que ce que j'avais avant, tu vois. J'ai perdu l'habitude d'avoir le luxe de pouvoir faire ce que je veux d'une partie raisonnable de mon temps, parce que pendant 9 mois, il n'y a aucun moment où je me suis dit « Putain, je me fais chier, je ne sais pas ce que je peux faire, ce que je dois faire ou ce qu'il faut que je fasse. » Donc, niveau sport, il y a eu une routine plus équilibrée qui s'est intégrée, ça c'est génial. J'aurais pas mal de choses à raconter là-dessus, également sur la suite des objectifs, on dira sportifs, mais ça sera probablement dans un prochain épisode. Là, je vais me concentrer plutôt sur le côté mental du truc là-dedans. Donc, plongeons dedans. Est-ce que, toi qui m'écoutes, tu connais le sentiment de culpabilité de ne pas être assez productif ou productive? Eh bien, on va en parler un peu, parce que je pense que je ne suis pas le seul là-dedans. Évidemment, je parle pour moi, mais bien sûr, tu pourras faire les parallèles avec ta situation. Parce qu'on a tous un rapport différent, comme toujours, avec certains sentiments qui peuvent être les mêmes, mine de rien. En attendant, j'en profite pour te dire que tu peux laisser 5 étoiles sur ce podcast, sur Spotify et Apple. Si jamais tu l'apprécies, tu peux aussi t'abonner sur YouTube, sur toutes les plateformes. J'ai changé d'hébergeur juste avant de publier ce podcast. Pour la première fois depuis l'existence de ce podcast, ça va faire 3-4 ans là. 4 ans, purée, ça fait 4. Il a 4 ans ce podcast. Oh là là, ça va vite. J'espère que tout va bien se passer là, mais si tu écoutes ce podcast, c'est que normalement il a réussi à te trouver. Bref, ça me concerne, mais évidemment ça soutient le podcast si tu veux lui laisser une petite note. Et tu peux même laisser des commentaires sur Spotify, sur Apple et sur YouTube. Ça fait plaisir, je lis tout et je réponds souvent. Bref, revenons-en au sentiment de culpabilité. Je vais tracer un petit historique de ma propre relation avec ce sentiment sur les dernières années, parce que c'est de là que le contexte, il faut un certain contexte, j'imagine, pour comprendre ma relation avec, qui n'est peut-être pas la plus courante. Enfin, les fondations, en tout cas, sur lesquelles ce sentiment a été créé, ne sont peut-être pas les plus courantes. Donc, historiquement, pour moi, ça n'a pas été méga évident ces dernières années, parce qu'en fait, je me suis conditionné quand même tout seul à devoir travailler énormément. Travailler, c'est-à-dire... me dire qu'il faut que je travaille. J'exagère. Évidemment, il a fallu que je travaille beaucoup, voire même non-stop, au début de mon activité indépendante sur les réseaux. C'était il y a 7 ans d'ailleurs. Enfin, ça fera 7 ans, le 17 novembre 2024, ça fera 7 ans que j'ai publié ma première vidéo YouTube, ce qui pour moi marque le début de cette aventure qui est devenue mon métier assez rapidement. Dans ma tête, c'était mon métier dès le début, mais pour que ça soit un métier, normalement, il faut gagner assez d'argent pour pouvoir en vivre, et ça ne s'est pas fait tout de suite non plus. Mais dès le début, c'était non-stop dans ma tête parce que c'était absolument nécessaire que ça soit non-stop dans ma tête pour qu'il y ait une chance que ça puisse fonctionner. Et je suis hyper reconnaissant de l'opportunité et je suis fier d'y être parvenu ensuite parce que ça a été le cas. À présent, je peux me permettre de ne plus travailler non-stop, mais ça a toujours été difficile durant ces 7 dernières années de ne rien faire. Et rien faire, je mets des guillemets, tu vois. La notion de temps libre a toujours été très floue en ce qui me concerne. J'ai pas l'impression que j'avais du temps libre. J'ai pas l'impression que je voulais en avoir, en fait, non plus, hein, parce que j'aime mon travail, j'aime travailler. Plus je travaille et plus je deviens meilleur à mon travail, et donc ce qui me fait que j'aime encore plus mon travail, et donc j'ai encore plus envie de travailler, jusqu'à un certain point en tout cas. Mon passe-temps, mon loisir, c'est mon travail. J'ai du temps libre aujourd'hui. J'ai du temps libre aujourd'hui. Bah, trop cool, je vais pouvoir travailler. c'est trop bien, j'adore. Voilà, évidemment, je conçois, c'est pas le cas de tout le monde. Donc je suis reconnaissant de ça, d'aimer mon travail. Peu importe à quel point c'est grâce à moi ou pas que c'est le cas. En tout cas, j'ai une partie du mérite, ça c'est sûr et certain. Mais ça n'a pas non plus que des avantages, tout ça, notamment quand ton travail n'a pas de fin, quand tu le fais pour toi et quand tu le fais chez toi, c'est-à-dire au même endroit où normalement tu es censé vivre sans travailler. Voilà, et ça c'était d'autant plus fort les premières années, bien sûr, parce que c'était au début que je devais absolument me conditionner à travailler le plus possible. Mon identité est à présent fortement liée à mon travail, même si évidemment mon identité n'est pas entièrement définie par mon travail, hein. Je suis aussi... ce qui fait partie de mon identité. Je suis aussi un gars sportif. Je suis un gars qui aime apprendre des nouvelles choses. Je suis un gars qui aime les défis. Je suis un gars qui fait de la muscu. Je suis un gars qui fait du cardio. Je suis un gars qui accorde énormément d'importance à sa relation et à sa copine. Et bah quand même, en plus de ça, je suis un gars qui travaille beaucoup et qui aime ça. Voilà, enchanté. Donc voilà, comme je disais, c'était très fort au début dans les premières années. Et on pourrait dire que forcément, après de nombreuses années, ça a des chances de changer, hein, la relation qu'on a avec notre travail et notre activité principale, on dira, change, évolue, en même temps que nous, on évolue en tant qu'être humain, plus ou moins vite, en fonction des événements qui nous arrivent ou des événements qu'on déclenche dans nos vies. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se lassent, voilà, on dira se lassent, à défaut d'un meilleur verbe, se lassent de leur domaine, de leur carrière après 5, 10 ou 20 ans au même endroit. Quand bien même ils adoraient faire ça au tout début, ça semble être courant, voire naturel, je sais pas, parce qu'évidemment, le naturel, tu peux le favoriser, tu peux le ralentir avec tes actions, je suppose, et en fonction de certaines circonstances, parfois indépendantes de notre volonté, bien sûr. Mais il semblerait que le temps passe et que, encore plus, d'après ce que j'ai compris, alors pour plein de raisons, hein, c'est pas juste, je sais même pas ce que je voulais dire. Ce que je sais, c'est que c'est entre guillemets connu que les générations les plus récentes ont tendance à vouloir plus souvent changer de carrière, là où le cliché, c'est que nos grands-parents, ils faisaient la même chose pendant 30 ans. Et j'ai envie de dire qu'ils aiment ça ou qu'ils aiment pas ça, ils le faisaient quand même, c'est un petit peu plus l'idée qu'on a. Et aujourd'hui, on a à la fois plus le choix, on a à la fois envie de plus de sens, j'ai l'impression, dans notre activité. Et donc, on se permet, la société nous permet aussi, je suppose, plus de changer de carrière en cours de route. Bref, donc est-ce que ça me concerne ? C'est possible, bien sûr. Même si c'est un peu différent aussi de par la nature de mon travail, de mon métier, de ce que j'en ai fait, hein, parce que j'ai quand même refusé de me coincer dans quelque chose, notamment dans un domaine précis. J'ai jamais fait des vidéos, des podcasts ou quoi que ce soit d'autre, en privilégiant principalement le fait qu'il faut que ça marche, plutôt que le fait que ça va me plaire de le faire. Alors évidemment, toute chose égale par ailleurs et en fonction de la période. En gros, pour faire une image différente, c'est comme si j'avais un taf normal. Un taf normal, c'est par exemple, c'est comme si j'étais salarié dans une autre entreprise, on dira, mais que j'étais pas obligé de suivre les ordres de mon patron. C'est-à-dire que le patron, quelque part, il peut avoir des envies, des attentes vis-à-vis de moi, mais moi, je suis un peu en mode, ok, je prends en compte, hein, j'écoute tes recommandations, mais je vais les considérer comme des recommandations, et je vais quand même faire un peu ce que je veux, tu vois. Donc il faut que je bosse, mais il n'y a pas tant d'obligations extérieures. Après, comme je dis, ça c'est plutôt, c'est plus maintenant qu'au début. Hein, au début, c'était beaucoup plus il faut que je fasse ce qui marche versus ce que j'aime. Mais j'ai toujours fait ce que j'aimais. J'ai pas commencé à faire ça parce que je voulais juste que ça marche. Et c'est pas ce que je recommanderais d'ailleurs pour la plupart des activités entrepreneuriales, en tout cas dans lesquelles j'ai plus d'expérience. Et dans cette histoire d'ailleurs, mon patron, c'est qui mon patron moi aujourd'hui ? Bah, mon patron, quelque part, c'est les plateformes sur lesquelles mon contenu est hébergé et distribué, les algorithmes qui dictent ces plateformes, par exemple, et ce sont, on dira, mes abonnés, la communauté. Ce sont les deux groupes qui ont le plus de, comment dire, d'exigences plus ou moins directes sur ce que je fais de mon travail. Et ensuite, c'est libre à moi d'essayer de leur plaire un maximum aux algorithmes et aux abonnés, ou de quand même favoriser mon propre sentiment de plaisir dans ce que je fais. Évidemment, il y a un juste milieu, même aujourd'hui, hein, évidemment. Mais c'est vrai que je me mets quand même assez peu de barrières à ce niveau. Si tu as suivi un peu mon travail, notamment mes vidéos, tu as remarqué que je ne me suis pas juste coincé dans un seul domaine assez fermé. Dès le début, mon but, c'était de parler de développement physique et mental, donc de développement de soi globalement, ce qui est quand même quelque chose de très large. Et je peux te dire, je suis allé chercher quand même relativement large, on dira. J'ai pas fait que des vidéos de street workout, comme j'en faisais surtout au début. J'ai fait des vidéos de facecam, de développement personnel. J'ai fait des vidéos sur la nutrition, sur l'exposition au froid, des vidéos de challenge de transformation communautaire, des vidéos sur mes habitudes, des vidéos sur la course à pied. Et je termine là une année de suite de vidéos sur ma préparation Ironman triathlon, tu vois. Donc ça a quand même bougé un peu. J'ai surtout fait ce que j'avais envie de faire, pas juste ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et je compte bien à ce que ça continue comme ça, parce que je vois pas d'intérêt à faire ce métier si ça me plaît plus. Mais bon, j'ai commencé justement parce que le sujet me plaît, parce que les compétences à développer là-dedans me plaisent, parce qu'il n'y a pas vraiment de plafond de croissance, parce que je suis mon propre patron et que les possibilités que ça m'offre une grande liberté sur mon style de vie et mon temps sont grandes si jamais ça marche. Ça, c'est ce que je me disais au début. Ça s'est plus ou moins avéré correct par la suite, surtout parce que ça a marché. Hein, voilà, à nouveau, tant mieux. J'ai de la liberté. Je ne suis plus obligé de cravacher H24 pour que ça tienne debout. Et donc on en revient voilà, à aujourd'hui, hein, pourquoi je te raconte tout ce contexte, pourquoi je te raconte ma life comme ça. Là, je sors du coup de 9 mois hyper intenses où je n'avais pas 30 minutes à gaspiller dans une journée. Cette histoire-là est terminée, ça me laisse le temps et toutes les bonnes raisons du monde d'en faire un peu moins. Voilà, je suis moins obligé de travailler, je sors d'une période très intense, donc je me retrouve dans une période où il y a beaucoup moins à faire. Et toutes les bonnes raisons, toutes les bonnes excuses, bonne raison, voilà, parfois c'est interchangeable, toutes les justifications ne sont pas des excuses, qu'on s'entende, il y a des bonnes raisons et il y a des excuses, voilà, faudrait que je les mette les deux, je suis pas en train de te dire qu'à chaque fois que tu fais rien, c'est que t'as une excuse, voilà, c'est ça que je voulais dire avec ça, mais toutes les excuses sont là pour que, bon bah je me repose un peu quoi. Et c'est ce que j'ai fait, t'inquiète, clairement c'est ce que j'ai fait, mais quand même, j'en arrive parfois à un petit moment où j'ai du mal parfois à déterminer intérieurement si j'ai bien chillé aujourd'hui, ou je me suis bien reposé aujourd'hui, ou si j'ai chillé un peu aujourd'hui et j'ai quand même bien procrastiné ma foi. Et peut-être que tu peux t'apparenter justement à ce sentiment de « bon, est-ce que je me suis reposé aujourd'hui ? C'était nécessaire ? Est-ce que j'ai procrastiné ? Que j'ai déguisé ça un peu intérieurement en repos ?» C'est pas toujours évident de faire ça. C'est pas toujours évident de trouver l'équilibre. Et en plus, on est influencé par plein de choses, notre environnement, soi-même, notre éducation, la société, tout ça. Et donc, moi, ce petit sentiment, il amène quand même à une petite boucle dans laquelle il m'arrive de tomber. Historiquement, je suis beaucoup tombé dans cette boucle, dans cette spirale peut-être, on pourrait dire. Ah, c'est plutôt une boucle. C'est une boucle, en fait, où je me lève tard, Ah, déjà parce que je peux, hein, voilà, ça c'est quand même la flexibilité de mon travail que je me suis aussi offerte, on dira, mais je me lève tard. Je suis plus un lève-tard qu'un lève-tôt, il n'y a pas de doute. J'ai un peu de mal à commencer mes journées par du travail, c'est-à-dire que je commence mes journées par glandouiller un peu, qu'on se le dise, historiquement. À nouveau, hein, qu'est-ce qui est de la glandouille et qu'est-ce qui est de du... Je lis, je slow life un peu, je prends le temps de faire les choses le matin, je prends le temps de regarder des vidéos YouTube et de consulter Instagram avant de me mettre au travail parce que c'est bon pour moi et ma vie et mon bonheur. Bref, il y a un mélange entre je prends le temps de faire les choses pour les faire, sans but comme ça, et de, bon bah, je me branle, je me masturbe... On va rester poli, je glandouille en regardant des vidéos ou en scrollant sur mon téléphone, notamment. Je ne fais pas nécessairement que ça, mais du coup, j'ai du mal à commencer mes journées de travail. Je commence à travailler plus tard, je commence à travailler un peu plus tard dans la journée. Ensuite, je vais au sport, je mange tout ça. On arrive le soir, il commence à être relativement tard et je me dis, ah purée, j'ai un peu glandouillé aujourd'hui. Du coup, si je veux pas me coucher en me disant que j'ai trop glandouillé, bah, il faut que je travaille ce soir. Et donc, je travaille ce soir, et donc je me couche assez tard, et donc, je me lève assez tard, et hop là, on est reparti pour une petite boucle. Allez, c'est reparti, on enchaîne. Et ça, tu peux aussi te reconnaître dans ce genre de comportement, dans ce genre de boucle dans laquelle, parfois, on a du mal à se sortir. Et évidemment, tu risques de ne pas avoir la même boucle que moi, parce que ça va évidemment être influencé par ton style de vie et plein d'autres choses. Mais il y a quand même ce genre de choses dans lequel, personnellement, j'ai eu un peu de mal, notamment avec les cycles de sommeil, ce genre de boucle, et le fait que bah, des fois, le matin et jusqu'à midi et tout, j'ai du mal à m'y mettre. Et au lieu de profiter de ce moment où j'ai du mal à m'y mettre pour faire quelque chose, on dira, pour moi... sincèrement, qui n'a pas de but, de productivité par exemple, eh bien je reste dans un espèce de flou où je me dis qu'il faudrait peut-être que je fasse quelque chose, mais du coup je le fais pas, et du coup je culpabilise un peu de ne pas le faire alors que j'aurais pu, quitte à ne rien branler, tu vois, sincèrement, quitte à ne rien branler tous les matins, mais autant attribuer officiellement cette partie de la journée comme étant la partie de la journée où je ne branle rien, et j'ai le droit, et il n'y a pas de problème. Tu vois un peu le truc? Et on va parler un peu de ça et de comment réussir à lâcher du lest sur ce genre de partie, notamment dans les méthodes que j'ai testées pour essayer de me sortir un peu de ce cadre mental, de ce cadre de cette boucle, notamment. Et avec un peu de succès, même si je suis toujours en train d'expérimenter depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'expérimente. Voilà, j'ai quelques résultats. J'ai quelques résultats à poser maintenant. Non, c'est pas vrai. Bref. Ça n'a évidemment pas été un problème majeur dans ma vie qui m'a empêché, si je puis dire, d'accomplir quoi que ce soit. Il y a pas de doute. Mais on a tous nos problèmes, évidemment. Faut pas croire. D'ailleurs, quand je parle de cette boucle où je me couche tard, je me lève tard et tout, bah, je suis retombé un peu là-dedans après, justement, cette prépa triathlon Ironman, pendant laquelle j'avais un rythme de vie qui était bien plus... structuré, cyclique et raisonnable, notamment, on dira, en termes de structure de journée, de cycle de sommeil. D'ailleurs, c'était un de mes objectifs de début 2024, que j'avais partagé au début de l'année dans un autre épisode, d'essayer de mieux gérer mes cycles de sommeil cette année, notamment pendant cette prépa triathlon, parce que ces objectifs-là étaient globalement centrés sur cette prépa. Donc pendant la prépa, c'était au top. Assez rapidement, j'étais bien calé, j'arrivais à ne pas me coucher trop tard, j'arrivais à toujours avoir assez de sommeil, c'était absolument primordial pour moi. Et maintenant que j'ai à nouveau un peu plus le choix, maintenant que j'ai à nouveau plus d'occasions, de bonnes raisons et d'excuses de chiller, eh ben c'est tout de suite plus difficile, je réalise quand même, tu vois. Et donc, comme je le dis, tout ça, ça me crée parfois un petit sentiment de culpabilité plus ou moins fort à la fin de mes journées. Et ceci est aussi dépendant d'à quel point j'arrive à classifier certaines parties de ces journées comme ayant été productives ou ayant été de la procrastination. Voilà. Et du coup, c'est aussi ça qui me fait me coucher tard. Tu l'as compris. Et ceci est un bel exemple de choses avec lesquelles j'ai quand même eu beaucoup de mal depuis toujours, hein, sincèrement, malgré toutes mes tentatives. Et là, je parle de gérer assez bien mes cycles de sommeil, par exemple. Le fameux « il faut se coucher à la même heure et se lever à la même heure tous les jours, mes couilles, tout ça bah, ». Moi, j'ai toujours eu du mal, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. J'ai toujours eu une grande variance là-dedans, toujours biaisée vers le « je me couche vachement tard et je me lève tard ». Notamment quand j'en ai l'opportunité, c'est-à-dire typiquement pendant mes études, parce que pendant mes études, j'avais beaucoup de liberté. Les moments où j'ai travaillé à temps plein, bah là j'avais pas le choix, donc je me levais tous les matins. Et quand j'ai un cadre, bah je me conforme au cadre, hein, comme la plupart des gens, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix. Généralement, quand on a un emploi du temps et un cadre de travail assez fixe et strict, généralement le travail ça commence à 8h, ça commence à 9h, ça commence parfois à 23h et ça termine à 6h du mat. Eh ben, il faut s'y conformer, même si c'est peut-être pas le cycle qui serait le plus naturel pour nous que d'aller travailler la nuit ou que de se lever à 6h du mat pour pouvoir être au taf à 8h. Mais quand il a fallu, évidemment, je l'ai fait. Mais sinon, j'ai toujours eu du mal et c'est souvent parti en couille. Et je sais que je ne suis pas le seul avec ça, clairement. Donc voilà, à mon avis, c'est normal si tu ressens la même chose parfois, que tu te sens un peu coupable. Vis-à-vis de ça, t'inquiète. En tout cas, si ça peut te rassurer, si ça peut me rassurer, on est beaucoup dans le même bateau, peu importe ce qu'on peut renvoyer de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui galèrent intérieurement ou même extérieurement, mais intérieurement, bah, du coup, souvent, ça se voit pas. Même des personnes que tu peux plus ou moins admirer, respecter, tout le monde a ses propres forces et faiblesses. Tout le monde galère un peu, si ça peut te rassurer. C'est pas parce que quelqu'un projette...
Everyone knows that it's not Valentine's without 1-800-Flowers.com. So whatever you do, don't forget the flowers. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get a gorgeous bouquet of assorted roses starting at $24.99. It's the perfect way to say I love you without breaking the bank. Don't put this off. Quantities are limited, so lock in your roses starting at $24.99 today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Plus ou moins ostensiblement une réussite parfaite, que c'est la vérité, sur mon avis, c'est pas le cas la plupart du temps. Et donc, maintenant qu'on a bien posé, le cœur du problème, et que tu as pu comparer avec le tien, on dira... Comment est-ce que j'ai fait pour m'aider à repartir dans une meilleure direction, à partir de ce postulat un peu chaotique, un peu trop de chaos, voilà, comme toujours, polarité, ordre et chaos. Bah là, il y avait un peu trop de chaos dans ma vie et il a fallu essayer de trouver un moyen de mettre un peu plus d'ordre, parce qu'il faut un certain équilibre, on ne peut pas y échapper. En tout cas, on n'a pas envie de tomber complètement d'un côté, j'ai l'impression. Car non, figure-toi que je ne suis pas resté sans rien faire. Ni sans rien tenter face à ça. Comment ça me connaît, tu sais? Moi, je suis toujours force d'initiative pour essayer de résoudre les problèmes de la vie et me développer personnellement. Mais oui, je suis ce genre de mec aussi, figure-toi. Voilà, tu l'avais pas encore compris. Si c'est le premier épisode que t'écoutes, bienvenue! Voilà, ça pose un peu le ton. Je te laisse aller écouter le reste du catalogue d'épisodes. Il y en a quand même bientôt 140 pour te faire les dents sur ce genre de concept. Pas que, bien sûr, mais il y en a pas mal à ce propos. Bref, je disais, j'ai essayé plusieurs méthodes, en tout cas deux méthodes que j'ai pu plus facilement distinguer et définir, on dira, deux méthodes qui ont eu différents niveaux de succès que je vais te détailler juste maintenant. Et quand je dis d'ailleurs, quand je dis que le but c'était de repartir dans une meilleure direction, à nouveau, ça ne veut pas dire une direction obligatoirement plus productive dans le sens où on l'entend en général. C'est-à-dire, vite, il faut que je me remette au travail, efficacement dans ma vie, parce qu'il n'y a que ça qui compte, la productivité, le travail, etc., etc. Non, mais plutôt une meilleure direction dans le sens où retrouver un peu plus de bonheur, un peu plus de sens peut-être, un peu moins de culpabilité au quotidien. Parce que généralement, il n'y a quand même pas mort d'homme, qu'on se le dise. Là, je pars évidemment du principe que je m'adresse à des personnes qui écoutent du podcast, qui ont le luxe de faire ça, qui sont dans une société développée, etc., etc. Quand tu scrolles sur TikTok une heure et demie par jour, bon, ça ne tue personne. Je pense pas que ça favorise ton futur, ni que ça aide grand monde. Mais voilà, après, chacun se fait son avis là-dessus. Et la plupart des gens, je pense, ne sont pas... peuvent ressentir un certain degré de culpabilité après avoir passé beaucoup de temps sur ce genre d'activité. En tout cas, moi, c'est le cas. Donc, pour la première méthode des deux, en vrai, j'ai d'abord tenté justement quelque chose qui n'est pas du tout productif pour le travail à première vue, parce que je n'avais pas envie de juste réussir à me remettre dans un cadre strict, tout de suite en tout cas. C'était justement, j'y ai fait allusion un peu plus tôt, de réussir à mieux séparer les moments où je fais autre chose que d'essayer d'être productif volontairement. J'ai essayé de réintroduire une vraie notion de temps libre, en quelque sorte, avec des hobbies dans ma vie, dans mon quotidien. Notion assez vague, historiquement, à nouveau. Hobby, en tout cas, ces 9 derniers mois, ça l'était... il n'y avait pas la place pour ça, en fait. Et donc, des hobbies qui ne sont pas là pour être productifs en tant que tels, mais qui sont là pour mieux créer un équilibre et des frontières plus claires dans mes journées, qui pourraient finalement être d'ailleurs un net positif, en fait, dans ma vie, tout simplement, de par une augmentation du bien-être, par moins de culpabilisation, par une augmentation de ma clarté d'esprit, dans les autres blocs de ma vie qui sont peut-être plus destinés à la productivité. Tu vois, en fait... En fait, on trouve des méthodes non productives directement pour être plus productif indirect. Il faut triquer son cerveau comme ça. Non, j'exagère. J'exagère, mais mon propre cerveau rationnel ne peut pas s'empêcher de tirer la conclusion que si j'arrive à trouver des trucs, des solutions non productives, bah, quelque part, je vais me sentir mieux. Parce que je serais plus heureux, et donc je serais peut-être même plus productif quand même. Sans branle, ça c'est juste les méandres de mon cerveau qui fonctionnent un peu comme ça aussi. Bref, ça c'était la première méthode que je vais discuter. La deuxième méthode, écoute, à un moment donné, il faut combattre le mal par le mal, il faut combattre le chaos par l'ordre. Cette deuxième méthode est un peu plus terre-à-terre, est sacrément concrète, est sacrément applicable, et sacrément précise, mesurable et progressive pour se remettre en jambes, pour accumuler plus facilement des victoires au quotidien, pour se redonner des objectifs clairs et du sens, tout comme pour se mener soi-même, à nouveau, petit à petit, gentiment, comme ça, vers des actions plus productives. Ah, putain, finalement. Pouf, ah, on va parler productivité un peu, putain. Ah, je vais t'expliquer ces deux méthodes gentiment. Je vais évidemment poser le contexte par rapport à ce que moi j'ai fait, bien entendu. Et je te laisserai tirer plus ou moins directement voilà, tes propres méthodes. Juste avant tout ça, je te rappelle que si tu veux te transformer physiquement et mentalement de la meilleure des manières, tu trouveras de quoi soutenir tes progrès sur ericflack.com. Bien sûr, avec les meilleurs programmes de street workout et de sèche, ainsi que, bien entendu, les équipements sportifs qui vont avec et qui continuent de récolter un sacré paquet de compliments au quotidien. D'ailleurs, voici un message qu'on a reçu là, tout récemment de la part de Émile. Émile qui nous dit « Les produits sont d'excellente qualité, j'ai pris le gilet lesté et la barre de traction, je suis concepteur mécanique et je sais reconnaître un bon produit quand j'en vois un, le produit est amené à durer, merci ». Eh bien, merci à toi, Émile. Ceci est un des plus de 2200 avis vérifiés qu'on a reçus sur Trustpilot, qui est une plateforme externe où on ne peut pas supprimer les avis, même quand on les aime pas, même quand on n'est pas d'accord, même quand c'est la concu qui vient mettre des avis de merde. Mais on a quand même une note moyenne de 4,8 sur 5, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Des centaines de milliers de personnes nous ont déjà fait confiance en achetant un programme ou un équipement, ou encore en suivant les programmes gratuits, parce qu'il y en a aussi hein, des programmes gratuits, donc n'hésite pas à aller voir. ericflack.com, tu l'as compris, c'est aussi ce qui me permet en parallèle de gagner ma vie, et donc de faire des vidéos et des podcasts gratuitement. Même si voilà, je les fais gratuitement, mais ils me font gagner ma vie, enfin bref, t'as compris. Mais c'est quand même grâce à ça. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, revenons-en à nos deux méthodes. Première méthode, comme je l'ai dit, j'ai souhaité me trouver des hobbies, en fait, des vrais hobbies, Et donc, naturellement, je me suis dirigé vers mes hobbies historiques que j'avais un peu mis de côté, notamment pour ma carrière, voilà, si je puis dire. Vu que j'avais du temps, je me suis dit, j'ai du temps, plutôt que de glandouiller, essayons d'allouer une partie de ce temps de glandouille culpabilisante à un vrai bloc où le but, c'est juste de m'amuser, c'est juste de faire autre chose et de séparer ça un peu plus dans mon quotidien pour ajouter un peu d'ordre, mais sans pour autant vouloir me fouetter encore plus pour finalement être productif, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je vais parler un peu de mes hobbies à moi. On va plonger un peu. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé historiquement dans ce podcast, plus ou moins. Donc, sache juste que je vais parler de ma vie à nouveau. Merde ! Oh, il parle encore de sa vie, le con, c'est pas possible. Quand est-ce qu'il va arrêter ? Écoute, c'est un peu le principe du podcast, tu l'auras peut-être remarqué. On va d'abord parler de jeux vidéo. Je vais parler juste des trucs principaux. Je vais parler jeux vidéo, je vais parler poker, je vais parler piano, principalement. Parce qu'il y a déjà des petites histoires et des petites anecdotes à raconter sur tout ça, notamment sur comment j'ai historiquement et actuellement plus ou moins réussi à faire ça. Commençons par les jeux vidéo. Veux-tu ? Relation compliquée personnellement avec les jeux vidéo, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait un épisode dédié, mais l'historique de cet épisode parlait de ma relation avec les jeux vidéo dans mon enfance, dans mon adolescence, et je m'étais arrêté, je me souviens plus exactement où je m'étais arrêté, ça devait être vers le début de ma vie d'adulte que j'avais arrêté cet épisode, avant que je me plonge à fond dans la muscu et que j'arrête complètement de jouer. Parce que j'ai arrêté complètement de jouer aux jeux vidéo autour de mes 21-22 ans, donc à peu près autour de 2013. Et là, régulièrement, depuis ces 10 dernières années, du coup, 11 dernières années, je me suis dit, est-ce que j'arriverai pas à réintégrer un peu les jeux vidéo comme étant un hobby et comme n'étant pas quelque chose qui consume entièrement ma vie ? Parce que historiquement, avec les jeux vidéo également, Ça n'a pas été facile d'utiliser les jeux vidéo versus les jeux vidéo qui m'utilisent, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et peut-être que tu peux t'apparenter, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'apparenter à ça, que ce soit pour les jeux vidéo ou d'autres choses qui peuvent créer, on dira, des addictions. Donc, je me suis dit, les jeux vidéo, sur le papier, c'est parfait. C'est quelque chose que j'aime, que j'ai toujours aimé. Je pourrais juste essayer de prendre du temps pour jouer, pour penser à autre chose. Ce temps-là serait juste dédié à m'amuser en tant que tel. Il n'y aurait pas de pression, il n'y aurait pas d'objectif précis, autre que le fait de prendre du temps pour kiffer, jouer un peu, quoi, tout simplement. Donc, je m'étais arrêté dans mon historique des jeux vidéo, je vais peut-être reprendre rapidement, histoire qu'on comprenne, comme ça je l'aurais fait. À la base, je voulais le faire un peu sur la fin de cet épisode, mais il était un peu long, donc je vais terminer ici, voilà. Je vais terminer ici. Ma relation, ces 10 dernières années, ça va être vite fait, j'ai pas tant que ça de trucs à raconter en 10 ans, il s'est pas passé énormément de choses. C'était le but, c'était nécessaire, je pense, pour me concentrer sur des choses plus productive dans ma vie, comme ma carrière, voilà, tout est question d'équilibre à nouveau. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc vers 21-22 ans, en 2013, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo, j'ai fait de la muscu, je me suis concentré sur mes études, et puis ensuite j'ai fait des vidéos à 27 ans. Je n'avais jamais vraiment retouché aux jeux vidéo, mais juste avant le confinement, donc c'était début 2020 je crois, je m'étais dit, tiens, je vais tester à nouveau d'inclure un peu du... parce que là, à ce moment-là, c'est quand... Oui, j'habitais déjà chez moi. Donc, ça y est, début 2020, YouTube, j'en vis, c'est mon métier, j'arrive à gagner ma vie avec. Je me dis, maintenant que j'ai un certain équilibre et que je peux à nouveau, parce que c'est à des moments comme ça, charnières dans ma vie, où je sors d'une période ou d'un objectif précis, que je me dis, maintenant que j'ai validé l'objectif, l'objectif étant de vivre de ma passion à ce moment-là, de pouvoir enfin payer mes factures avec mes vidéos, on va essayer de réintégrer les jeux vidéo pour voir si ça peut fonctionner sur un malentendu. Eh bien, j'ai acheté une Switch juste avant le confinement. Je ne savais pas que le confinement allait tomber, bien sûr. J'avais acheté Zelda Breath of the Wild. J'avais acheté Super Smash Bros. Ultimate aussi avec la Switch début 2020. Tester une reprise, voir comment ça allait se passer. Smash, j'ai testé un peu. J'ai dû jouer 2 jours. Je pense que j'ai dû jouer 2 jours à ce jeu. C'est un jeu de compétition, c'est un jeu de multijoueur en plus. En fait, pour moi, je ne pouvais pas jouer à ce jeu où le but, c'est de devenir meilleur, on dira. Enfin, le but. En bref, je ne me voyais pas jouer encore moins tout seul. Enfin, ça n'avait aucun sens de jouer seul à ce jeu. déjà, on dira. Mais en plus, je me disais, ok, vu mon caractère, soit je vais envie de jouer à fond pour devenir fort, soit j'ai pas envie de jouer du tout parce que j'ai pas envie de devenir moyen, tu vois. C'est un peu comme ça que je voyais le truc. Bref, voilà, ça, c'était aux oubliettes très rapidement. Zelda, par contre, c'est un jeu où tu joues tout seul, il y a pas de compétition, il y a pas de compétition. Tu joues, soi-disant, pour t'amuser, tu vois. Et j'ai joué un tout petit peu à Zelda, mais très vite, le confinement, il tombe. J'ai réalisé, putain, il y a le confinement. Donc, pour le contexte, le confinement, ça a été un énorme coup de boost pour moi, clairement. J'en ai déjà parlé, peut-être moins sur ce podcast, mais dans d'autres podcasts ou quoi. J'en ai déjà parlé, clairement, que le confinement, à ce moment-là, bah, le sport à la maison, c'est devenu cool. Qui c'est qui faisait du sport à la maison avant que ça soit cool ? Bah moi, par exemple. Et qui c'est qui avait beaucoup plus de temps pour regarder des vidéos sur YouTube ? Tout le monde ! Donc ça a été un gros boost pour moi, et à ce moment-là, clairement, les jeux vidéo, c'était directement j'ai viré ça. Les jeux vidéo, ça sert à rien. Là, c'est vraiment l'opportunité de ma vie de me concentrer sur ma carrière. C'est exactement ce que j'ai fait, je ne regrette absolument pas, et ça m'a beaucoup servi. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance dans ce cataclysme mondial. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance, clairement. Il n'y a pas de doute, mais j'ai saisi l'opportunité, ça c'est sûr. Donc j'ai plus jamais retouché à la console à ce moment-là. Petite anecdote, la console a disparu. Début 2021, elle n'a pas vraiment disparu. En fait, mon ex s'est barré avec la Switch. C'est moi qui l'avais payé en plus. Bon, bref, ça, c'est pas intéressant de partir de là. Et j'étais évidemment, j'étais consentant dans cette démarche parce que j'y jouais pas, je m'en branlais. Et du coup, elle s'est barrée avec la Switch. Donc, j'avais à nouveau plus rien. De toute façon, je l'utilisais pas. Je me suis concentré toujours sur mon boulot. Bref, 3 ans après, 2023, octobre 2023. Donc l'année dernière, il y a pile un an, putain. Il y a Zelda, il y a la suite de ce Zelda qui est sorti, Tears of the Kingdom. Et je me suis dit, bah vas-y. Vas-y Eric, tu l'as mérité. C'est bon mec, pète un coup, tu peux jouer aux jeux vidéo. Je suis sûr que tu peux y arriver mec. Tu vas y arriver. Tu vas réussir à réintégrer un peu des jeux vidéo sans avoir un comportement complètement obsessionnel vis-à-vis d'eux. Ok. On va voir ce qui s'est passé. J'ai donc racheté ma deuxième Switch. Celle-ci, je l'ai toujours par contre. J'ai racheté le nouveau Zelda et je ne vais pas mentir, j'ai eu quelques difficultés à me contrôler à la reprise. Genre, je lance le jeu et là, si tu connais pas, c'est un jeu à monde ouvert, c'est un jeu où très rapidement t'as accès à toute la carte. Les opportunités sont énormes, tu peux même aller directement au boss de fin si tu veux. C'est juste que là, tu vas te faire massacrer parce que le but, c'est quand même que tu level up ton personnage, que tu gagnes des compétences, des cœurs, des armes, des boucliers. Des armures, des pouvoirs magiques, des objets, tu vas devoir crafter des objets, tu vas devoir cuisiner de la bouffe qui te fait attaque plus 10 pour pouvoir aller péter la gueule à tout le monde un peu plus facilement et sans te faire laminer par 2 coups d'épée de Ganondorf, vois-tu ? Et donc, il y a une linéarité dans l'histoire pour te faire progresser, mais quand même, tu peux aller un peu où tu veux. T'es toujours attiré par un truc qui brille à gauche, à droite, alors que t'étais en chemin pour aller ailleurs. C'est un jeu magnifique, c'est un jeu énorme, très vaste, très complet, il y a plein de quêtes secondaires. Bref, tu peux passer ta vie dedans si vraiment tu aimes jouer tout seul dans ton coin dans un autre monde, parce que tu joues seul, c'est un jeu solo. Bref, qu'est-ce que je fais ? Bah, je me dis, bah, vas-y Eric, joue un peu. Tu sais ce que tu vas faire Eric ? Tu vas jouer juste une heure. Tu vas jouer juste une heure, Eric, tranquille, une heure. Tu peux te le permettre. Et je me souviens, tu me croiras jamais que je me suis déjà menti plusieurs fois avec ce genre de pensée et que ça dérapait pas mal sur du 3 heures de suite, en fait, finalement, tu vois. Tu pars une heure et puis il y a toujours un petit truc en plus et puis bah, de toute façon, bon, bah, personne m'en empêche, personne ne va directement me dire « Bon, Eric, tu joues trop aux jeux vidéo. » Parce que là, en 2023, je recommence les jeux vidéo, personne va me dire « Bon, Eric, tu pourrais travailler un peu. » Donc, je jouais 3 heures de suite. Je me souviens notamment d'une fois, et ça, c'est aussi une des choses avec lesquelles j'ai à me battre avec moi-même, et je pense que tu pourras peut-être t'identifier aussi un peu. Petite anecdote sur une session un soir, je me souviens, une session de 3 heures et demie peut-être, je me perds dans le jeu, je progresse, je commence à explorer les profondeurs, la deuxième map du jeu, je débloque un nouveau pouvoir ou quoi, j'en sais rien, enfin bref. Je progresse dans le jeu, tu vois. J'ai du mal à me faire arrêter. Bon, du coup, je continue. Allez, 15 minutes de plus, 20 minutes de plus, tout ça, tout ça. À un moment donné, quand même, il commence à être vraiment trop tard pour que j'arrive à me faire croire que c'est vraiment une bonne idée de continuer à jouer, tu vois. Et donc, je décide d'arrêter. J'éteins la console. Je regarde autour de moi. Je rechange de dimension. Je reviens dans mon corps. Je regarde autour de moi. Il est 1h du mat. J'ai pas compris où sont passées les 3-4 dernières heures. Je me réveille dans mon corps. Et j'ai, voilà, tu vois, ce sentiment d'avoir vraiment bien progressé dans le jeu. Là, vraiment, Link, dans le jeu, il a bien level up en 3 heures. Et là, je récupère la vie de Eric. Et la vie de Eric, bah, au mieux, elle a stagné pendant ce temps-là. Pire que ça, même, vu ce que j'aurais pu faire à la place, comme dormir. Hein, et dormir, je pense que c'est quand même un assez bon bail, en général. Et bah, je me retrouve avec Eric, qui, lui, a régressé, en fait. Quelque part, à nouveau... On y vient, hein, tu l'as compris, le but c'est pas nécessairement le jugement de c'est bien, c'est pas bien, de mais oui, mais tu peux jouer, mais oui, mais moi, c'est que, on s'en branle. Toi, tu fais ce que tu veux, moi aussi, je juge pas. Le but c'est pas nécessairement de juger, c'est de péniblement, petit pas par petit pas, se rapprocher un peu d'un équilibre peut-être illusoire, mais un peu moins chaotique. Chacun son équilibre, bien sûr. Mais c'est pour dire que moi, là, je me réveille et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais où? Mais qu'est-ce que... Oh non, je crois que je... C'est terrible! J'ai investi dans cette réalité virtuelle et bon, ben, j'ai troqué le futur pour le présent. Et ça, il n'y a pas de mal, mais toujours dans un certain équilibre. Si tu continuellement, tu troques ton futur pour le plaisir actuel... Eh bien, on sait le genre de quotidien dans lequel on peut se retrouver, qui est toujours agréable, même pas. C'est même pas toujours agréable sur le moment, parce que des fois, quand vraiment tu boucles depuis longtemps, quand vraiment tu spirales depuis longtemps, t'es dans le plaisir immédiat constamment, mais quelque part, tu te dégoûtes un peu toi-même en même temps. Soi-disant, ça te fait plaisir de taper 12 pornos par jour, de manger que de la malbouffe, que de privilégier tout ce qui est bon maintenant... Mais tu sens que ça monte un peu en toi quand même, le dégoût versus le plaisir. Enfin bref, ça, je n'ai jamais dépassé ce genre de barrière, ce genre de limite, où peut-être que tu spirales pour de bon jusqu'à taper le fond ensuite. Ça m'est jamais arrivé, tant mieux, je croise les doigts. Je pense être suffisamment armé aujourd'hui pour que ça ne m'arrive pas, mais vu ma personnalité, on ne sait jamais. Donc, il y a des garde-fous qui sont en place, notamment le garde-fou qui est « Putain, Eric, t'as joué 4 heures de suite aux jeux vidéo. Est-ce que c'était la meilleure idée ?» Enfin bon, voilà, ça c'était une anecdote qui résume aussi un peu cet épisode de octobre à novembre 2023 qui a duré très peu de temps. Pourquoi ? Parce que le 27 novembre 2023, début de ma préparation Iron Man, et je n'ai plus jamais touché à la Switch à partir du moment où je me suis lancé là-dedans. Pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé un truc sur lequel m'obséder un coup, tu vois, voilà, ça a très bien marché, c'était plus productif, c'était mieux en fait, sincèrement, hein. C'était clairement, j'ai adoré cette expérience, là où, si j'avais passé 9 mois à jouer aux jeux vidéo autant que j'ai fait du sport, bon, je pense que j'aurais moins apprécié pendant/après-coup. Quoi qu'il en soit, j'ai plus jamais retouché, moi je suis vraiment du genre, je me suis mis dans un autre truc, et là j'avais vraiment plus le temps pour jouer aux jeux vidéo, voilà, pas d'équilibre, c'est tout ou rien, voilà, bienvenue. Et donc, si je te raconte ça, c'est parce que j'ai récemment, voilà, on en arrive aujourd'hui, excuse-moi, on raconte des histoires, mais bon, on est là pour ça aussi un peu. Récemment, ces derniers temps, ces 2 derniers mois, j'ai essayé de nouveau, avec ce nouveau temps que j'ai pu décider d'allouer en tant que temps libre, j'ai décidé de jouer à nouveau. Énième tentative dans ma vie, tu l'auras compris, de réintégrer les jeux vidéo comme un hobby. Je sais pas, je force, je continue à croire qu'il existe une réalité dans laquelle je vais y arriver. Et, spoiler ! Je m'en sors pas trop mal. Ça s'est pas si mal passé. Alors, ça c'est pas toujours facile de rester équilibré avec ma tendance naturelle de faire le forcené. Mais avec des choix, avec des expériences, avec le fait que ça n'ait pas marché plusieurs fois, forcément que je suis le genre de mec, je crois, qui apprend de ses expériences et qui donc essaye de ne pas répéter la même chose en espérant un résultat différent. Et je crois que je m'en sors quand même un peu de mieux en mieux. À chaque itération, je pars un petit peu moins dans la débauche, tu vois. C'était, dans l'ensemble, plutôt concluant. J'ai pas repris Zelda, parce que ça m'a saoulé, tout simplement. Je sais pas, j'étais au milieu d'un truc, je savais que je m'étais arrêté au milieu d'une quête, j'ai complètement oublié ce que je devais faire pour la suite, ça m'a saoulé. Je me suis dit, bon, m'en branle, j'ai envie de faire autre chose. Et j'ai plutôt décidé d'aller me baigner dans la nostalgie, là, parce que c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le jeu vidéo, moi. Ça me ramène à un temps, un ancien temps. Ah là, la belle époque où rien ne comptait dans ma vie, à part les jeux vidéo. J'avais beaucoup moins de responsabilités. Alors, il y a des bonnes choses dans le fait de ne pas avoir de responsabilités. Il y a des moins bonnes choses dans le fait de ne pas avoir de responsabilités. On a beaucoup moins de pouvoir, généralement, sur sa vie quand on n'a pas de responsabilités. Je pense, quoi qu'il en soit. J'ai décidé d'acheter Paper Mario. Paper Mario, la porte millénaire. Voilà, je te balance les blazes juste pour que tu saches, parce que il y en a qui connaissent, évidemment. C'était un ancien jeu de GameCube qui est sorti genre en 2000 et quelques. Il y a eu un remake qui a été fait sur la Switch. Et j'ai plus ou moins saigné ce jeu que j'avais... J'ai toujours aimé les licences, j'ai toujours aimé les RPG. RPG, c'est Role Playing Games. En fait, un RPG, c'est un jeu dans lequel t'as un personnage qui monte de niveau, globalement, qui apprend, qui monte en compétences. Tout ce que j'adore faire dans la vraie vie, eh ben, j'aime aussi le faire dans un jeu vidéo. Figure-toi, il y a des parallèles, c'est fou. Et donc, j'ai saigné ce jeu gentiment. J'y ai mis les 20 heures nécessaires de jeu pour le terminer. Après une petite pause, j'ai acheté un autre Zelda, un autre remake, Zelda The Awakening, un truc du genre. Putain, je me souviens même plus comment il s'appelle. Il est là, d'ailleurs. Putain, elle est là, ma Switch. Thémas, tu vois la vidéo, tu vois ma belle Switch. Switch que j'ai acheté, d'ailleurs, en édition limitée, collector Zelda, tu vois. Non, parce que moi, quand je fais les choses, franchement, je les fais pas souvent à moitié, figure-toi. Je sais pas si t'avais compris. Mais elle est là, elle est sur mon bureau, à côté, voilà, genre... Gentiment, des fois je la lance. Bref, j'ai pas mal joué à Paper Mario au début. Ensuite, il y a eu un autre Zelda, là, où je joue un peu. Et sur ces deux mois, j'ai plus joué au début. Je faisais des sessions, des sessions de 30 minutes à 2 heures, hein, on dira. Peut-être j'ai fait un 2h30 une fois. Voilà, mais tu le dis à personne. Peut-être j'ai fait un 2h30 une fois, ça reste entre nous. Mais en moyenne, ça va. Surtout que c'est pas que je me suis lassé. Mais j'ai réussi à... comme d'habitude, ça part assez fort. Et ensuite, ça se stabilise. Le pendule entre dans son groove infini, qui est un petit peu moins de variance et qui est un petit peu plus proche du point d'équilibre, on dira. Et je joue un peu moins. Il y a moins de... Ouais, bref, ça va, en fait. Dit absolument tous les mecs qui ont des problèmes d'addiction dans leur vie. Ouais, ça va, je m'en sors bien en ce moment. Non, c'était la merde avant, mais maintenant, j'y arrive bien. Je fume beaucoup moins aujourd'hui. Je vais toujours souvent au casino, mais je perds moins. En ce moment, je dirais que je suis à peu près break-even. Je suis à peu près à zéro, tu vois. Dit tous les mecs qui perdent de l'argent, mais qui disent à leur entourage qu'ils sont à peu près à zéro, tu vois. Là, évidemment, pas de jugement, c'est plus pour rigoler. D'ailleurs, on va parler de poker juste après. Mais c'est pour dire que c'était sympa de réintégrer un peu le jeu vidéo. J'ai d'ailleurs remarqué qu'en déplacement, c'est très sympa aussi. Déjà, j'arrivais un peu à créer des... pour en revenir au sujet, hein, j'ai arrivé à créer des espaces, parfois même le matin, parfois même avant de commencer ma journée, de me dire, Eric, c'est pas grave, t'as pas envie d'essayer de faire semblant de travailler. Pose-toi sur le canapé dans le salon, tu sors la console, tu joues une heure et demie, puis t'immerges un peu dans ce jeu sans complètement t'oublier. Et quand tu en ressortiras, tu auras au moins profité de ce temps. Et j'ai réussi à faire ça. Et j'ai découvert typiquement qu'en déplacement, comme je disais, c'est très sympa aussi quand il n'est vraiment pas question de faire quelque chose de productif parce que c'est pas le moment, c'est pas l'heure. Quand je suis dans le train, dans l'avion, par exemple, là, on a fait un petit week-end, un long week-end à Édimbourg, en Écosse, au Royaume-Uni. Et je me suis dit, putain, mais je vais prendre ma Switch dans l'avion. Et l'avion est passé, mais comme as. C'est passé super vite. C'était génial. J'étais beaucoup moins inconfortable dans mon siège d'avion parce que j'étais en train de terminer un ou deux donjons sur Zelda, tu vois. D'ailleurs, j'en profite très rapidement, Édimbourg. Très sympa. Agréablement surpris par cette ville que c'est surtout ma copine de base qui voulait aller visiter. Période d'octobre, avec un peu de brume, mais on a eu du beau temps. Une ville absolument magnifique. Vraiment, l'architecture en pierre, incroyable. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cela. Je ferme la parenthèse, c'était juste mon avis vite fait. En bref, pour conclure avec ces jeux vidéo, pour l'instant ça va, ça remplit le rôle que je voulais. J'ai pu faire ma pause, j'ai pu m'amuser. Faire une pause... et décider de jouer une heure à un jeu vidéo et d'en ressortir assez content, c'est beaucoup, beaucoup mieux, d'après mon expérience, que de faire une pause. Mais pendant la pause, je vais scroller sur les réseaux sociaux sans réfléchir. Et donc, par l'intervalle, en parallèle, je me fais bombarder par des pubs, je me fais bombarder par des idées, je me fais bombarder par des potentielles comparaisons malsaines. Non, non, c'est beaucoup mieux, en fait, de quand même changer de monde, d'aller jouer avec Mario, avec Zelda, avec Link. C'est beaucoup mieux plutôt que de passer sa pause à se faire tirailler de tous les côtés sur un réseau social, typiquement. Donc, j'aurais envie de dire, jeu vidéo, bien mieux que le scrollage intempestif, je trouve. Et donc voilà, bah écoute, j'ai envie de dire, on se tient au courant pour la suite, potentiellement, là, ça a bien marché. J'aurais envie de dire, je recommande, alors évidemment, je recommande les jeux vidéo, notamment dans mon contexte à moi, hein. C'est d'après mon expérience que j'aurais tendance à, voilà, je pense que t'as bien compris, peut-être que ça peut être une solution pour toi. En tout cas, je suis assez content de voir que j'ai réussi à moins culpabiliser, on dira, vis-à-vis de ça, de par mon historique de sentiment de culpabilité plutôt pas courant, mais qui arrive de temps en temps, clairement. Donc voilà, je vais jouer encore un peu, là, on verra. Là, je joue moins ces temps-là, ça fait quelques jours que j'ai pas joué. Mais quand j'ai envie, je le fais beaucoup plus facilement. Et évidemment, je suis pas à l'abri du jour au lendemain de tout arrêter, à nouveau, de plus jamais y retoucher pendant 3 ans, parce que, je sais pas, il y aura un nouvel objectif sportif ou professionnel ultra prenant. J'ai pas envie de les enchaîner, tu comprends, c'est pour ça que j'ai terminé mon Ironman, j'ai pas envie de directement repartir sur un truc de ouf. J'ai envie de trouver un équilibre, tu comprends? Un équilibre entre les trucs de ouf, mais pas tout le temps tous à la suite non plus. D'ailleurs, il y a un nouvel objectif sportif qui se dessine, enfin, il se concrétise d'ailleurs, je sais déjà à peu près certainement ce que c'est. Donc j'en parlerai sûrement prochainement, mais c'est pas encore d'actualité. De toute façon, avant que la prochaine vidéo, la vidéo ultime sur cette prépa Ironman, cette vidéo qui va être la meilleure vidéo de ma chaîne, j'en suis assez sûr, et la plus intense en émotion, crois-moi, avant que cette vidéo sorte, il n'est pas question de réfléchir à la suite. La suite ne commence même pas. La potentielle prépa ne commence de toute façon pas avant que tout ceci est terminé. Mais on continue. Terminé avec ces jeux vidéo, du coup, je vais passer peut-être un peu plus rapidement, on va voir, sur autre chose que j'ai testé pendant cette période, qui est la réintégration de jouer un peu au poker dans mon quotidien. J'en ai parlé sporadiquement dans certains épisodes de ce podcast. Si tu les as tous écoutés, tu m'as déjà entendu en parler rapidement, mais je vais très vite poser un tout petit contexte. C'est que le poker, j'étais à fond dans le poker de mes 17 à 21 ans environ. Ça a fait une espèce de transition entre les jeux vidéo et la muscu, on dira. Et j'ai toujours aimé ça depuis, hein. J'ai toujours trouvé que c'était un jeu fascinant, et je suis effectivement pas le seul. Je précise, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le poker, c'est un jeu d'habilité, de compétences, de mathématiques et de chance, bien entendu. Mais ce n'est pas un jeu de pur hasard, où le hasard est largement majoritaire. C'est pas un jeu où mathématiquement, le joueur est perdant toujours à long terme, et le casino ou la maison sont les seuls qui gagnent. Ça, c'est le cas de tous les autres jeux de casino en général, par contre, hein. La roulette, le blackjack, les machines à sous. Là, t'es perdant, c'est sûr. C'est mathématique, pour le coup, t'es perdant. On peut devenir joueur pro de poker, on peut être gagnant, on peut en faire son métier, sa vie. Ça a été un vague objectif dans la mienne à un moment donné, dans cet espace-temps de 17 à 21 ans. J'ai vite déchanté quand j'ai réalisé que je n'aimais pas passer toute ma journée soit dans une salle, mais ça, je ne l'ai jamais vraiment fait, mais en tout cas devant mon ordi à jouer en ligne. Bref, de toute façon, j'étais jeune, j'étais en pleine construction encore. Bref, j'ai changé d'avis, on dira. Ce qui est sûr, c'est qu'être joueur pro, ça demande un travail énorme, ça demande une hygiène de vie au millimètre, à mon avis. Mais il n'empêche que le casino gagne toujours, hein, ça c'est sûr. Le casino, c'est vraiment la banque. La banque, si je puis dire, c'est le seul acteur, t'es sûr, il gagne tout le temps. Le casino, c'est pareil. Mais tu peux gagner toi quand même, tu peux gagner si suffisamment d'autres personnes perdent, tu gagnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc mathématiques, je vais pas rentrer dans le truc, mais tu peux lisser la chance et la malchance, notamment en jouant beaucoup. Bref, je vais pas rentrer dans les maths du truc, mais en gros, si tu es meilleur que les autres, ça va pouvoir se voir et ça va pouvoir se chiffrer. de façon moins variable, avec un certain volume, c'est-à-dire en jouant beaucoup, beaucoup. Bref, tout ça pour dire, j'en profite d'ailleurs, tout ce qui n'est pas du poker pour moi, tous ces jeux d'argent et tout, c'est de la merde. Ça ne m'a jamais attiré. Je ne peux que recommander de s'en détacher ou de ne pas tomber là-dedans. Pareil pour les paris sportifs qui ont une certaine cote, qui ont une certaine popularité chez certaines personnes, chez certains jeunes aussi. Ces trucs sont une plaie, si tu veux mon avis. Faut surtout pas commencer. Et si tu veux quand même le faire, il faut extrêmement bien budgétiser ton argent, mettre un tout petit peu de côté pour t'acheter le plaisir et l'adrénaline d'aller les perdre au casino ou sur un site de paris, en partant du principe que cet argent, cette petite partie de ton budget, c'est déjà perdu, que tu le dépenses comme si tu allais dans un parc d'attractions, tu payes pour aller faire un parc d'attractions, tu as des sensations fortes, tu sors, tu as eu des sensations et tu as perdu ton argent. Et bah le casino et les jeux en ligne et les paris, c'est la même merde. Enfin, la même merde. C'est peut-être un divertissement, mais il faut surtout pas que ça devienne plus. Et il faut surtout pas que tu joues quoi que ce soit que tu ne peux pas te permettre de perdre. Voilà, la prévention est terminée, mais c'est hyper important parce que je parle de poker. Moi, je connais bien, mais je sais que beaucoup de gens sont moins familiers et qu'ils pensent que le poker, c'est comme la roulette, c'est comme tout ça. C'est pas vraiment la même chose. Bref. J'ai prévu un épisode d'ailleurs sur, pas sur le poker, mais sur l'éducation financière. Peut-être quelques autres épisodes sur l'éducation financière et comment gagner de l'argent. Ça viendra, c'est un sujet tellement important que malheureusement, on apprend assez peu dans l'éducation de base, je trouve. Bref, où est-ce que j'en étais ? J'étais en train de raconter ma vie, putain, il faut que je reprenne, rapidement. Du coup, depuis que j'ai arrêté le poker à 21 ans, quelques parties entre potes, très sympa. Très apprécié parce qu'on joue un montant symbolique. Hein, quand on joue entre potes, on joue 5 balles, on joue 10 balles, tu vois, ensemble. C'est vraiment juste pour qu'il y ait un petit enjeu et que tout le monde ne joue pas n'importe comment, parce que quand tu joues rien, bah, tu fais tapis, tu joues n'importe comment. Il faut qu'il y ait un mini enjeu pour garder le sérieux. Mais sinon, on est là pour discuter, on est là pour s'amuser. C'est vraiment un bon moment, quoi. On rigole bien. J'ai pas mal de potes qui savent jouer, qui aiment bien, mais qui jouent juste entre potes, tu vois. C'est le principe pour la plupart des joueurs amateurs de passer un bon moment. C'est là où je veux en venir, évidemment. Passer un bon moment, c'est ça que je cherchais à faire dans ma vie, tout ça. J'avais été joué à Paris, je me souviens, un peu après le marathon, après mon marathon, quand j'étais à Paris de passage, j'avais été joué dans un club vers les Champs-Élysées, là, du genre fin avril 2023, je me souviens pas. Je me souviens par contre que c'était du cash game, pour ceux qui savent, donc tu joues directement de l'argent. J'avais pas apprécié l'expérience, je dois dire, j'avais été joué une soirée jusque tard, j'avais pas aimé l'ambiance, clairement j'avais pas aimé l'ambiance. J'aurais pu m'en douter, hein, mais du coup, maintenant je le sais. Évidemment que l'ambiance dans un cash game de casino, les gens ne sont pas vraiment là pour s'amuser ou pour rigoler. En plus, on ne se connaît pas, donc voilà. Je ne me suis pas amusé. Je me suis plutôt fait chier même, sincèrement. Et du coup, je précise, hein, je ne joue pas, ou en tout cas plus. Peut-être c'était le cas un peu avant, bien sûr. Avant, quand je jouais beaucoup, je jouais aussi pour gagner, hein, qu'on se le dise. Là, je ne joue plus, je joue pas pour l'argent. Je m'en branle, hein, des 300 balles que je joue. Que je joue en cash game, je m'en fous de les perdre, ça va rien changer à ma vie, je m'en fous de les gagner, je m'en fous de gagner 300 balles aussi, ça va rien changer à ma vie. Qu'on se le dise, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on joue responsablement, hein, je le répète, je joue pour m'amuser, pour passer un bon moment de sociabilisation. Je ne l'ai pas trouvé là-bas. Comme je l'ai dit, après coup, évidemment, c'est assez normal. Mais là, ces derniers temps, ces deux derniers mois, je me suis repris à me dire, bon, je sais pas quoi faire, je vais regarder du poker. Parce que j'ai toujours adoré regarder des émissions de poker ou des vidéos de poker mêlées. Tu sais, le genre de poker en live, où tu vois les gens jouer en live, tu vois leurs cartes, et puis t'as un commentateur. Hein, c'est comme du commentaire sportif. Sauf que là, on a coupé au montage tous les moments chiants où il se passe rien. Parce qu'au poker, il y a beaucoup de moments où il se passe rien. Personne n'a de main, personne joue pendant un certain temps. Enfin bref, si tu as déjà joué, tu sais un peu comment ça se passe. Et du coup, je commençais à jouer, à regarder des trucs de plus en plus, et je me dis, putain, vas-y, c'est cool le poker quand même, est-ce que j'ai pas envie de rejouer ? Et du coup, je me suis inscrit, j'ai été regarder sur internet, je me suis dit, bon, vas-y, je vais trouver un... J'avais fait une petite story Insta aussi, pour ceux qui ont vu. Et j'ai été faire un tournoi de poker pas très loin de chez moi, un soir, un vendredi, c'était vendredi, 19h, début du tournoi, je me suis inscrit la veille, je me suis dit, vas-y, stylé, je vais aller jouer, en plus, à côté de chez moi. C'était un tournoi, donc un tournoi, concrètement, comment ça fonctionne ? Tu joues pas directement de l'argent, c'est que tout le monde paye un certain montant, tout le monde a un certain nombre de jetons, et à la fin, c'est ceux qui tiennent le plus longtemps qui se partagent l'argent. Par exemple, s'il y a 100 joueurs, les 10 ou 12 meilleurs eh bien, ils se partagent la thune de tout le monde. Voilà, c'est le principe. Mais le montant que tu peux perdre est limité, typiquement. En cash game, tu joues directement de l'argent, donc tant que tu perds de l'argent, bah tu perds de l'argent. Voilà. Et là, le montant, c'était 100 balles, 105 plus 35. Donc j'ai payé 100 balles, en gros, qui allaient dans le lot que tout le monde pouvait gagner, et 35 balles en plus. Ça, c'est ce que tu payes pour l'organisation, évidemment, parce qu'il faut que les organisateurs gagnent de l'argent quand même, ils font pas ça. Voilà, c'est le casino gagne toujours. Et donc, voilà, là, c'est pas un casino, évidemment, c'est une association. Bref, super ambiance. Je me suis pointé à 19h, j'ai beaucoup apprécié. J'ai directement retrouvé un mec à ma table, à côté de moi, avec lequel je jouais. D'ailleurs, big up, Raphaël, si tu m'écoutes, je pense pas, mais big up quand même. Avec qui je jouais il y a 10 ans dans mon ancien club quand j'avais 20 ans. Bah, Raphaël était là. On jouait déjà ensemble. Je me pointe. Hey, qui c'est que je retrouve ? Bah, Raphaël était là. Donc on a directement pu passer un bon petit moment. Ensuite, j'ai changé de table, etc. C'est normal. J'ai rencontré 2-3 abonnés d'ailleurs, même à ma table. À un moment donné, il y en avait 2. C'était cool, on a bien discuté. Bonne ambiance, j'ai bien aimé. Très, très bon enfant. Très bonne ambiance. Donc ce point-là était particulièrement validé. C'était vraiment très cool. Par contre, on était genre 80. On était 80 à jouer. Même 90 avec tous ceux qui ont décidé de racheter parce qu'ils se sont fait éliminer, ils ont voulu rejouer. Bref, j'entre peut-être un peu trop dans les détails. Mais voilà on va couper court, gentiment quand même. Tout ça pour dire qu'on a commencé à 19h. C'était une partie où volontairement on a beaucoup de jetons au début pour pouvoir jouer et pas tout de suite se faire éliminer. Parce qu'il y a une pression. Ouais, je vais pas t'expliquer les règles du poker, mais tout ça pour dire que tu es forcé de jouer, et si tu joues jamais, bah tu perds juste ton argent petit à petit et tu te fais éliminer alors que tu n'avais aucune chance de gagner. Si tu ne joues aucune main, tu perds par défaut, parce que sinon le jeu serait trop lent. Quoi qu'il en soit, on était environ 90 à jouer et il fallait faire 12e au moins pour gagner de l'argent, quoi, concrètement. Alors comme je l'ai dit, je jouais certainement pas pour gagner de l'argent, même si la première place, quelque part, bon voilà, la première place, il gagnait 2600 balles, le premier, je crois. Le truc, c'est que moi, j'ai terminé, du coup, 25e sur 90. Et j'ai terminé à 2h du mat. Donc j'ai joué 7h de suite. Alors j'ai kiffé, hein. Ça peut te sembler extrêmement long, 7h de suite, mais moi j'aime bien, franchement. Je suis pas le seul, il n'y a pas de doute, c'est très prenant, c'est très amusant, surtout quand il y a une bonne ambiance. Le problème, c'est que j'ai terminé à 2h du mat. Alors je te dis pas, hein, le gagnant, il a dû toucher ses 2600 balles, mais il a dû se coucher à 5-6h, je pense. C'est pour ça que ces tournois sont vendredi et samedi, souvent, tu vois, où ça commence plutôt le dimanche. Mais je suis rentré chez moi, je me suis couché vers 3h, je me suis levé à 11h du mat, et j'avais pas assez dormi, et j'ai pas du tout apprécié le sentiment au réveil. J'ai réalisé que c'était un bien trop gros investissement en temps et en énergie pour le retour que j'en ai tiré. En gros, c'était comme un lendemain de soirée, tu vois. T'es allé en soirée, tu t'es bien amusé sur le moment, mais le lendemain, quand tu te réveilles, tu te dis « Putain, est-ce que vraiment ça valait la peine de me coucher aussi tard ? Est-ce que vraiment je suis content d'avoir perdu la moitié de mon samedi pour la moitié de mon week-end pour récupérer ?» Eh bah, ben, quand t'es plus jeune, des fois, la réponse est oui, ça valait carrément la peine. Je remarque qu'avec l'âge et l'expérience, ou avec l'âge en tout cas, on a de moins en moins envie. Moi, j'ai de moins en moins envie, j'ai plus du tout envie même. En réalité, j'ai plus envie. Et d'ailleurs, j'ai pas bu, hein, évidemment. Quand tu vas en soirée, des fois, en plus, tu bois, alors l'alcool, ça amplifie encore le sentiment de regret le lendemain, si tu veux mon avis. Bref, ça a calmé mes envies de poker. C'était très sympa, mais ça a fini de mettre une lumière sur le fait que rien de tel que des bonnes parties entre potes, ou alors des cash games. Cash games, tu arrêtes quand tu veux. Histoire que ça dure pas trop longtemps, mais il faut absolument qu'il y ait une bonne ambiance, qu'il y ait des bons collègues. D'ailleurs, j'ai un poker qui est prévu là, début novembre, je vais chez Avner. Avner, qui est un collègue youtubeur, qui est passé sur le podcast, chez qui j'ai déjà fait une partie de poker l'année dernière, qui était extrêmement cool. D'ailleurs, on va filmer une vidéo pour sa chaîne, une vidéo sur le street qui sortira, je pense, en novembre. Voilà, j'en profite pour dire ça. On se tient au courant en story Instagram, mais voilà, en tout cas, si... Je sais pas si. J'allais dire, si une fois tu fais un poker et qu'il y a une bonne ambiance, bah invite-moi. Mais bon, je vais pas aller chez n'importe qui à l'autre bout de la France pour en faire une partie de poker non plus, tu m'entends ? Mais je pourrais être chaud de faire une partie de poker entre abonnés une fois, ça pourrait être bien sympa. On verra si j'organise ça, mais c'est pas demain non plus. Bref, voilà pour le poker, je vais passer rapidement au dernier truc et on va passer à la deuxième méthode parce que le temps passe. De toute façon, je précise à nouveau que si certaines parties sont trop longues à ton goût, libre à toi de passer à la partie suivante, car elles sont toujours indiquées en description de vidéo, il y a les codes temporels. Toujours sur Spotify, YouTube, ils sont directement dans la barre de lecture. Bref, dernière petite chose que j'ai réessayé d'intégrer, c'est là que ça a moins fonctionné et c'est là que ça m'a mené à la deuxième méthode, typiquement, le piano. Voilà, le piano. Le piano qui a été un des grands perdants de ma prépa Ironman. Voilà, je vais pas à nouveau te poser un contexte sur les 15 dernières années de ma vie. Je pense que tu t'en passeras. Moi aussi, du coup. J'ai commencé à jouer au piano quand j'avais vers 14 ans. Et là, j'ai 33 ans. Donc, voilà, plus ou moins fortement, j'ai pris des cours pendant longtemps et ensuite, j'ai continué à jouer tout seul, plus ou moins par période de ma vie. Et force est de constater que pendant ma prépa Ironman, le piano, zéro. Ah, je le dis sincèrement, j'ai pas dû toucher à mon piano pendant au moins 6 mois de suite, pendant que je faisais du triathlon. Peut-être un peu au début, j'en ai fait. Après, j'ai arrêté complètement. Donc, voilà, le gros problème historiquement dans ma vie, et c'est là qu'on va entrer sur la deuxième méthode, c'est là qu'on va entrer sur... sur une chose avec laquelle je suis sûr que tu peux t'apparenter à nouveau, c'est que mon piano, j'adore jouer du piano, mais il y a une friction monumentale à l'idée de me dire « je vais me poser devant mon piano et prendre le temps de jouer ». Je ne sais pas vraiment pourquoi, c'est peut-être la nature humaine ou c'est ma nature, j'ai du mal à me poser devant et à commencer à jouer. J'ai du mal. Et pourtant, quand je joue, je kiffe, systématiquement. Et c'est pareil pour d'autres activités que j'ai décidé de ne plus prioriser du tout pendant ma prépa, malheureusement, parce qu'il fallait faire des compromis, même si, voilà, les compromis, c'était... j'aurais peut-être pu continuer à jouer au piano si je regardais moins la télé le soir, des fois. Même si souvent, j'étais avec ma copine quand je faisais ça, donc, voilà. Non, voilà, j'ai arrêté de faire du piano, j'ai arrêté de lire. J'ai arrêté ma lecture plus ou moins quotidienne, régulière, le soir avant de dormir pendant ma prépa, parce que...
Valentine's Day is coming up, and for me, there's only one place I trust, 1-800-Flowers.com. This year, 1-800-Flowers wants to make sure you're a Valentine's hero with an exclusive offer. Double the roses for free. When you buy one dozen, they'll double your bouquet to 2 dozen roses. It's the perfect way to say I love you without breaking the bank. Trust me, 1-800-Flowers always delivers. To claim your double the roses offer, go to 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Parce que voilà, passer du temps avec, avec ma copine. Et puis bref, comme j'ai dit, question de priorité. À un moment donné, on ne peut pas tout faire non plus. Donc je ne vais pas me dire que j'aurais pu si je regardais moins Netflix. J'aurais sûrement pu. j'aurais sûrement pu. Tu sais bien. Tu commences à savoir comment je réfléchis, mais je ne me m'auto-flagelle pas du tout pour ça. Il y avait d'autres choses qui ont été magnifiquement faites pendant cette période et qui me prenaient assez de temps. Mais le piano, la lecture, ça, c'est des activités qui peuvent être des hobbies, qui sont des hobbies, mais qui ont certaines particularités en plus qui sont indéniables, en tout cas pour moi. Je sais que c'est bon pour moi, je sais que je prends du plaisir à le faire. Je sais que c'est pas du travail, c'est pas un truc qui est destiné à être productif, je joue pas du piano pour être productif, tu vois. Mais que ce sont des activités qui, en plus, une fois que j'ai terminé, peu importe d'ailleurs, j'ai envie de dire, combien de temps de suite je me suis perdu dans cette activité, je ne regrette jamais de l'avoir fait. Peut-être qu'on pourrait dire que le sport, c'est pareil. Sauf que le sport, c'est une sacrée habitude dans ma vie. T'inquiète pas que le sport, ça ne part pas. Et j'en suis extrêmement heureux. Parce que quelque part, c'est vrai que pour toi, peut-être, ça peut être le sport. Tu vois, tu te dis, putain, le sport, j'ai toujours du mal à m'y mettre. Mais quand je le fais, je le fais, quoi. Ça pourrait... Non, peut-être pas. peut-être que t'as pas envie que ça dure trop longtemps. Mais même si ça a duré longtemps, après coup, tu regrettes pas. Tu regrettes pas de l'avoir fait, tu regrettes pas d'avoir commencé et de t'être donné les moyens de le faire. Et tu te dis pas que tu as perdu ton temps et que t'aurais mieux fait de travailler à la place ou de faire autre chose. Il y a certaines choses comme ça, j'ai l'impression, elles ont que des bénéfices, elles sont tout bénéfices. Tout bénéfices, est-ce que ça coche toutes les cases? Oui, sauf une. C'est que c'est pas facile de s'y mettre, putain. C'est pas facile, je trouve. Pour moi, alors ça peut le devenir. Pour moi, le sport, c'est assez facile de m'y mettre. C'est assez facile d'aller à la salle. C'est assez facile de mettre mes chaussures pour aller courir. Parce que je sais que je vais kiffer. Parce que vraiment, j'ai intégré ça comme des bonnes... c'est dans mon identité. C'est des habitudes vraiment putain de gravées dans qui je suis. En tout cas, jusqu'à présent. Et il y a d'autres choses qui ont aussi des bénéfices... Qui sont bonnes sur toute la ligne. Je kiffe, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon équilibre, c'est bon pour tout, mais putain, j'arrive pas facilement comme ça à m'asseoir et me dire bon, bah, je vais m'asseoir et lire. Bon, bah, je vais aller au lit plus tôt pour prendre le temps de lire. Et ça, j'ai eu du mal, alors que ça aurait été des hobbies parfaits à intégrer dans mon quotidien. Et c'est aussi devant ce constat que la deuxième méthode dont je t'ai parlé a germé dans mon esprit. Mais avant, tu l'as compris, je vais pas donner plus d'exemples. Donc, si tu sens, pour conclure, on dira avec cette première méthode, si tu sens que tu as un souci similaire au mien pour la gestion de tes loisirs, eh bien, voilà, pour résumer, je pense que tu l'as compris, essayez de mieux séparer les choses de façon concrète, de prendre des vraies pauses. Tente, si tu sens que tu as du mal à culpabiliser, mec, tu sens que c'est un peu chaotique, si tu veux essayer de réintroduire un peu plus d'ordre, mais sans pour autant... te forcer à faire des choses qui soient trop productives, trop qui demandent trop d'efforts, bah, trouve des choses que tu aimes, souviens-toi des choses que tu aimes faire, souviens-toi qu'il fut un temps où tu passais du temps à lire des BD, par exemple, et que en fait, tu l'as remplacé par d'autres activités qui te font un peu plus culpabiliser encore, comme par exemple les réseaux sociaux, voilà, toujours ils ont bon dos les réseaux sociaux, mais désolé... C'est vrai que suivant ta démographie, suivant l'âge, ta génération, bah, y a plus de chances que comme moi, tu passes beaucoup de temps dessus et que tu ne sois pas toujours satisfait du temps que tu es passé dessus. Bah voilà, n'oublie pas que tu peux essayer, je t'encourage, je l'ai fait, j'ai testé, j'ai approuvé. Ça marche des fois, ça ne marche pas toujours. Tu peux essayer d'allouer du temps juste pour toi, comme ça, juste pour t'amuser. Et d'essayer de formater cela de façon à profiter vraiment. De ne pas te dire que tu aurais dû faire autre chose à la place. Non, il y a un temps pour profiter dans la vie. Voilà, on dira. Je t'encourage à tester. Voilà, on va passer du coup à la deuxième méthode. Et là, je précise tout de suite, voilà, ça n'a rien de révolutionnaire, je n'ai rien inventé, mais c'est une méthode simple, efficace et gratuite qui peut notamment aider à commencer quelque chose, tiens, ou à accomplir certaines actions. C'est ce qu'on pourrait tout simplement résumer à un tracker d'action, un tracker d'habitude. Concrètement, pour ceux qui ne sont pas familiers, et encore, il y a quelques twists ou détails à ce propos que je trouve très importants à préciser. Concrètement, c'est tout simple. Tu définis des petits objectifs, tu définis des petites actions, plus ou moins petites, hein, ou des nouvelles habitudes, voilà, pour vraiment aller dans le tracker d'habitude, mais... pas nécessairement des habitudes que tu cherches à intégrer, ça peut juste être des actions pour lesquelles tu veux t'aider à te lancer ou à faire régulièrement. C'est des choses que tu souhaites faire régulièrement ou alors que tu souhaites intégrer ou renforcer. Et rien de tel pour intégrer ou renforcer quelque chose que de le faire régulièrement. Le plus simple, le plus efficace, tu choisis une chose à faire. Par exemple, on prend un exemple basique. Pour pas y passer 3 heures et que tu comprennes très bien de quoi je parle, tu choisis une chose, une action que tu veux, que tu aimerais, que tu souhaiterais faire tous les jours, sans exception. On reviendra, il peut y avoir de la nuance, mais on va partir là-dessus. Tous les jours, sans exception. Cette chose, il est préférable qu'elle corresponde à la plupart des critères d'un objectif dit SMART. SMART étant un acronyme, ça j'en ai déjà parlé dans l'épisode 58 de ce podcast sur comment créer, comment créer un bon objectif et le meilleur système qui va avec, quelque chose comme ça, un ancien épisode, mais toujours autant d'actualité. Donc, je ne vais pas refaire tout l'acronyme, mais concrètement, ces petites actions, ces petits objectifs doivent pouvoir être formulés de façon spécifique, de façon mesurable, en plus, bien sûr, d'être pertinent pour toi, d'être réaliste et de pouvoir être réalistement contenu au sein d'une même journée parce que tu as envie de le faire tous les jours, tu vois. Donc, il faut que ça soit très précis. Il faut que ça soit « oui, j'ai fait cette action, non, j'ai pas fait cette action ». Mais il n'y a pas de gris, il y a noir et blanc là. Là, pour le coup, on est dans du noir et blanc, c'est binaire. C'est oui ou non. n'y a pas d'interprétation. Par exemple, faire 10 pompes tous les jours. Bien sûr, ça peut être faire une pompe tous les jours, ça peut être faire 100 pompes tous les jours. C'est toi qui choisis, c'est toi qui adaptes, c'est toi qui choisis l'action, c'est toi qui choisis l'échelle. Il faut que ça fasse du sens pour toi, tu l'as compris. Mais là, c'est clair et net. Tous les jours, tu sauras si oui ou non. Sinon, il faut vraiment se mentir extrêmement fort. Si tu as fait tes 10 pompes avant d'aller te coucher. Il n'y a pas matière à négocier avec toi-même sur « mais est-ce qu'on pourrait pas compter ça comme une pompe ?» Est-ce que quand je me suis levé sur mon lit parce que je dors sur le ventre, bah quelque part, il y a eu une espèce de répulsion avec mes bras? Est-ce que ça compte pas comme une pompe? Non, ça compte pas comme une pompe. Je suis désolé, il faut être honnête. Soyons honnêtes. Non, il fallait te mettre par terre, n'importe où, au travail, aux toilettes, devant ta douche, à côté de ton lit, t'as fait tes pompes ou pas. C'est évidemment un exemple facile, mais tu peux choisir plein d'autres choses. Avec des unités de mesure, c'est toujours plus simple. Ça peut être des répétitions, comme pour les pompes. Ça peut être du temps, des minutes. Ça peut être un nombre d'actions à répéter, etc., etc. Ça peut être quelque chose à faire une fois ou pas. Il faut juste qu'il y ait une unité de mesure claire pour qu'on puisse, évidemment, mesurer. C'était dans la définition du truc. Et donc, on continue l'exemple rapidement. À partir de là, tu as choisi ton truc, une seule chose. Là, il faut imprimer ou acheter un calendrier. Un calendrier avec le mois en cours. Et l'idée, c'est que, évidemment, tous les jours, tu coches une croix dans la case du jour en question, si tu l'as fait, et tu ne coches pas de croix si tu ne l'as pas fait. Et ça, c'est une étape extrêmement importante, et à mon sens, c'est vraiment la plus puissante qu'il y ait. Parce que, évidemment, du coup, ce que je dis comme étant très important, c'est d'imprimer, c'est d'acheter, c'est d'avoir physiquement quelque chose sur lequel... au stylo, au crayon, faire ta croix. Bien mieux, je trouve, justement, de l'avoir en physique, plutôt que, et c'est bien mieux, c'est, à mon sens, plus concret, plus satisfaisant, que de cocher une case dans les notes de son téléphone ou sur une application, même s'il y a des applications de tracker d'habitude qui sont sûrement très bien faites, je dis pas, mais je trouve que c'est encore mieux de le faire physiquement. Ou pire encore, c'est évidemment bien mieux que de simplement même se faire la liste. Ok, je vais faire 10 pompes tous les jours, mais de ne pas mesurer, de ne pas cocher de croix quelque part. Cocher une croix, c'est génial. Cocher une croix physique, c'est encore mieux. Parce que j'ai pas besoin de t'expliquer, je pense, trop longtemps, dans tous les sens, à quel point c'est motivant et gratifiant de cocher une case tous les jours et de voir tous les jours la série de petites cases cochées qui sont cochées les unes après les autres. Et de se dire, putain, mais j'ai pas envie de casser ma chaîne de coche à la suite. Ça fait 10 jours de suite que je fais 10 pompes. Je vais quand même pas m'arrêter maintenant, ce serait trop bête. Et tu comprends bien comment ça t'aide énormément à le faire là où, en fait, ça pouvait être super dur de s'y mettre. C'est vraiment un petit jeu, un petit système tout simple, efficace, gratuit, qui prend très peu de temps à mettre en place, qui prend peu d'efforts à mettre en place pour faire cela. Et tu peux choisir des choses très faciles. Tu peux volontairement te dire, eh bien, je vais faire une pompe par jour. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Je vais aller courir 5 minutes par jour. Et là, forcément, tu peux te dire, bon, le plus dur pour moi, c'est de mettre les chaussures et d'aller courir. Bon, bah, une fois que j'ai couru mes 5 minutes, maintenant que je suis lancé, autant faire un peu plus. Alors, tu peux évidemment utiliser ça pour t'aider à commencer les choses. Ce qui est d'ailleurs toujours le plus difficile, je trouve, comme je l'ai dit, et comme je l'ai exemplifié juste avant, pour moi, c'est souvent commencer les choses. Le plus dur, c'est pas de continuer à les faire. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aborde dans mon TEDx. Encore et toujours, apparemment. Mais je pense que peut-être le prochain épisode, je le ferai dessus. Tout ça pour dire, c'est t'as un très bon moyen. Je ne peux que t'encourager. Et évidemment, je t'encourage à l'implémenter. Et évidemment, il y a évidemment plein de nuances, plein de variations. Tu peux choisir de faire les choses tous les jours. Tu peux choisir plusieurs choses à faire, plusieurs choses à mettre sur ton tracker. Tu peux choisir des choses que tu vas juste essayer de faire un certain nombre de fois par semaine. Par exemple, toutes les bonnes actions, on dira, ne sont pas nécessairement bonnes à faire tous les jours, comme par exemple du sport. Aller courir tous les jours, quand t'as pas l'habitude de courir, c'est une très mauvaise idée de se dire que tu vas aller courir d'un coup tous les jours. Tu comprends l'idée? Attention surtout à ne pas commencer avec trop d'un coup. Comme toujours, il faut mieux partir conservateur et ajouter plus de choses en cours de route ensuite. Personnellement, je me suis fait ça du coup, hein, parce que si je te raconte ça, c'est qu'évidemment je l'ai fait. Je l'ai imprimé, J'ai commencé à cocher des cases depuis... ça fait une semaine, hein. Ça fait une semaine que je coche mes cases, là. Et je suis chaud. Ça se passe plutôt bien. Alors, je n'ai pas fait un perfect. J'ai pas réussi absolument tout ce que j'avais mis. Ça fait partie du jeu. J'ai choisi des choses qui, je savais que j'avais un peu de mal avec certaines. J'ai essayé de réintroduire une structure dans ma vie sans être complètement hardcore à ce propos, sans faire une liste longue comme le bras, sans me dire « Bon, Eric, ça y est, tous les jours, tu vas aller courir, faire la muscu, lire deux livres, t'assouplir pendant une heure. Et puis, évidemment, tu vas faire ça tous les jours, mec. » Non, progressif, chacun son rythme, chacun son échelle, mais quand même, il s'avère que ce sont des choses que j'avais un peu de mal à me faire par hobby, on dira généralement. Et il faut bien comprendre que ça a beau être une méthode simple, efficace, tout gratuite, tout ça, génial, franchement, que des bonnes choses. Rien n'est jamais complètement gratuit dans la vie. Désolé, première nouvelle, voilà. C'est aussi évidemment une pression stressante. C'est une forme de stress, une forme de pression que tu te mets de potentiellement te voir ne pas réussir à cocher la croix, de te voir abandonner, de te voir jeter à la poubelle ton petit tracker parce que t'as vite envie d'oublier que t'as raté. Ah oui, c'est une pression, comme d'habitude. Tenter quelque chose, c'est s'exposer à une réussite, mais c'est s'exposer à un échec. Et qui ne tente rien n'a rien, et qui ne tente rien n'a de toute façon pas une vie stylée, si tu veux mon avis, parce qu'à un moment donné, faut bien se lever pour aller ouvrir le frigo en encourant le risque que tu t'en coubles et que tu te casses la nuque. Voilà, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est un risque. C'est juste pour dire que voilà, on n'est pas obligé de prendre beaucoup de risques ou des très gros risques, mais il le faut. Tout ça pour dire, c'est une pression de voir ce calendrier imprimé de façon physique, laissé quelque part où tu vas le voir, évidemment, pour qu'il te regarde dans les yeux et te dise « Mec, est-ce que tu vas me cocher aujourd'hui ou pas ?» Cap ou pas cap de me cocher, de cocher toutes mes cases aujourd'hui. Et ben voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas viser trop haut, trop fort, trop souvent, parce que sinon, on n'arrive pas, on perd confiance en soi et on spirale dans le mauvais sens. Bref, tu l'as compris ? Je t'encourage à mettre cela en place tout de suite si tu veux, ou à recommencer à jouer aux jeux vidéo. Voilà, ce sont les grandes leçons de cet épisode, qui va gentiment arriver à sa fin, parce que ça fait un petit moment, je pourrais entrer plus en détail sur mon propre tracker actuel, sur ce que j'ai mis dessus et pourquoi je l'ai mis, ainsi que de discuter de ces différents sujets. Mais je crois que ça suffit pour cet épisode qui est assez long, donc ça pourrait être l'occasion d'en faire un autre, dédié, plus court, plus approfondi sur cette deuxième méthode, en long, en large et en travers, notamment par rapport à ce que j'ai décidé de mettre dedans, et histoire de se motiver encore un peu plus tous ensemble à le faire. Parce que là, je t'encourage en direct, vas-y, fais-le après avoir écouté cet épisode, si tu sens que ça fait du sens, si tu veux pas juste faire comme Eric Lag parce que tu crois que c'est magique et que tout ce que lui fait, ça marche. Bon, ça marche souvent. Pas toujours. Tu l'as vu ? Pas toujours. Je déconseille la spirale dans les jeux vidéo ou dans le poker ou dans plein de choses dans la vie. Tout, presque. Bref, cet épisode est probablement assez long. Je referai ça, j'imagine. Mais justement, ça, c'était quand même une première pour moi. Ce n'est pas la première fois que je me fixe des objectifs, figure-toi. Je sais que ça t'embouche un coin. Mais non, ce n'est pas la première fois. Mais c'est la première fois que je le prends vraiment en mode « Bon, vas-y, on va faire ça vraiment à fond. » Avec le maximum de pression. C'est ce que j'entends par l'avoir imprimé et devoir cocher ça physiquement. J'avais déjà fait des trucs où je cochais digitalement. J'avais même pas vraiment pris ça très au sérieux. J'ai décidé de prendre ça au sérieux. J'ai créé moi-même mon tableau pour le coup. J'ai fait moi-même mon tableau. J'ai fait 6 semaines sur une page A4. Je l'ai imprimé, je l'ai créé moi-même, je l'ai imprimé et je l'ai collé sur une feuille, sur un bout de carton, pour que ça soit plus rigide, tu vois. La dernière fois que j'ai atteint ce niveau de bricolage dans ma vie, de bricolage avec mes mains, oh putain, ça fait longtemps, hein, parce que moi, je suis pas le roi du bricolage, mais alors, la dernière fois que j'ai utilisé de la colle et du carton pour créer quelque chose, j'avais 8 ans, et c'était un collier de pâte, probablement, tu vois. J'exagère, mais voilà, je suis impliqué, je suis sérieux, et je ne peux que te recommander de faire le petit effort en plus pour prendre ça au sérieux, parce que c'est le principe. Ça sert à rien de faire ça si tu sais que dès le lendemain, tu vas le jeter ou ne rien faire. Quoi qu'il en soit, je crois que je vais m'arrêter là pour ce podcast. Il est bien, il est long, en tout cas, ça c'est sûr. J'espère que tu l'as apprécié, que tu vas trouver de la valeur, que tu vas appliquer pour toi, comme d'habitude, au milieu de toutes ces histoires sur ma life. Bah voilà, écoute, en tout cas, je vais partager des stories sur mon tracker, hein, fièrement, mais je vais attendre de le remplir un peu plus, tu vois, ça pèse un peu plus. Tu sais, sur Instagram, on partage que les réussites, tu comprends? Donc il faut que j'attende d'avoir bien coché toutes mes cases pour pouvoir montrer à tout le monde à quel point je coche bien mes cases comme un boss. Donc une fois que je l'aurai fait un peu, je ferai une petite story, tu vois, Donc suis-moi sur Instagram, c'est la leçon de ça, c'est qu'il faut me suivre sur Instagram, @EricFlag podcast pour suivre le compte du podcast. Et voilà, merci beaucoup pour ton temps et ton attention. À nouveau, hein, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast, n'hésite pas à utiliser le code EricFlag sur MyProtein pour tes besoins en complément alimentaire, c'est aussi un moyen de me soutenir, ça va de soi. Et voilà, bah, on se retrouve la prochaine fois. Bon, un nouvel épisode. D'ailleurs, quand je vais à Paris là, voir Avner, j'ai prévu des épisodes en duo qui vont revenir, du coup, pour cette fin d'année. Je vais arrêter de parler entièrement seul, tout le temps. Donc ça va être très stylé. Abonne-toi pour pas rater ça. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.
If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over a million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hi, this is Freddie Wong from Dungeons & Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Blast
Houston,
off.
We have a savings.
That's right. Rocket Money is a personal finance app that empowers you to save more, spend less, and take control of your financial life. Basically, you can see all of your checking, savings, credit cards, and investments in one convenient place. You can understand your spending trends, and most importantly, you can categorize those expenses and set up a custom budget by identifying top spending categories. Listen, you want to track bank statements? It's very difficult. Use Rocket Money to help keep track of all your finances. Rocket Money has over 5 million happy members and it's saved its users over $1 billion across all of the app's premium features. Let Rocket Money help you reach your financial goals faster. Get Rocket Money today at rocketmoney.com/allinone. That's rocketmoney.com/allinone.
The night dark, the rain relentless, and yet you drive safely. Perhaps you have the eyes of a puma piercing the dark. Or a bullfrog seeing through the wetness, blurs, and glares. Or could it be your Bosch Night Performance wiper blades wiping this whole time? So adapted to the dangers of driving on stormy nights, it's almost as if you are too. Night vision has evolved. Bosch Night Performance wiper blades.
Ça y est, t'as officiellement atteint la fin de cet épisode. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en lui mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et en t'abonnant pour ne rien rater. Merci beaucoup pour ton attention, j'apprécie énormément. Passe une belle fin de journée et à très bientôt.